Arthur Conan Doyle, Ma vie aventureuse. Chapitre 1. Souvenirs anciens. Je suis né le 22 mai 1859 à Édimbourg, sur la place de Picardie, ainsi nommée d'après une colonie de huguenots français venus jadis s'y établir. Cette place, à leur époque, faisait partie d'un village situé hors des murs de la ville. Elle se trouve aujourd'hui à l'extrémité de Queen Street, qui donne sur la promenade de la Leith. Je lui trouvais, lors de ma dernière visite, un air de déchéance, mais, de mon temps, les appartements y étaient recherchés. Mon père était le plus jeune fils de John Doyle, qui, passé de Dublin à Londres en 1815, y connut une grande réputation de dessinateur entre 1825 et 1850. On peut dire de ses crayons, publié sous les initiales fantaisistes H.B., qu'ils créèrent la caricature polie. Avant lui, en effet, la satire procédait brutalement, elle donnait à son objet des traits et des formes grotesques. Gilray et Rowlandson n'en eurent pas une autre conception. Mon grand-père était un gentleman qui dessinait pour des gentlemen. Avec lui, la satire résidait dans la malice de la représentation, non dans la déformation des visages. Idée nouvelle, devenue ensuite plus courante, la plupart des caricaturistes s'y étant conformés. Il n'y avait pas alors de journaux comiques. Les dessins de H.B. étaient lithographiés et mis en circulation à l'état de planche. On me dit que mon grand-père exerça une influence sur la politique. Il eut l'estime de ses plus notables contemporains. Je me le rappelle, en son vieil âge, comme un homme très beau, très digne, avec ses traits caractéristiques de l'anglo-irlandais qui marquaient le duc de Wellington. Il mourut en 1868. Il était demeuré veuf avec une nombreuse famille, de laquelle survécurent une fille et quatre garçons. Chacun des garçons se fit un nom, tous ayant hérité les dons artistiques de leur père. L'aîné, James Doyle, écrivit les Chroniques d'Angleterre et les illustra de gravures en couleur supérieures à toutes les œuvres du même genre que j'ai vues par la suite. Il consacra aussi 13 années de sa vie à cet admirable monument d'application et de savoir qui s'appelle le baronnage officiel anglais. Un autre des frères Doyle, Henry, juge éminent en matière de peinture ancienne, devint directeur de la National Gallery à Dublin et fut à ce titre nommé chevalier de l'Ordre du Bain. Le troisième, Richard, se rendit fameux dans Punch par l'originalité de son humour. Les elfes fameux qu'il dessina pour la couverture de ce journal sont encore familiers à tous les yeux. Enfin venait mon père, Charles Doyle. J'ai lieu de croire que, grâce au talent de mon grand-père, les Doyle jouissaient d'une bonne aisance. Ils habitaient Cambridge Terrace, à Londres. Le journal de Dickie Doyle nous a laissé un aperçu de leur vie familiale. Ils dépensaient jusqu'à la limite de leurs revenus, si bien qu'il leur fallut trouver des emplois pour leurs fils. À l'âge de 19 ans, mon père, s'étant vu offrir un poste de gouvernement au bureau du travail à Édimbourg, se rendit en conséquence dans cette ville. Il y passa toute la période laborieuse de sa vie. Et c'est ainsi que moi, Irlandais par extraction, je suis né dans la capitale écossaise. De provenance anglo-normande, les Doyle étaient des catholiques convaincus. Les premiers Doyle irlandais constituèrent une branche cadette des Doyle du Worcestershire qui a produit Sir Francis Hastings Doyle et quantité d'hommes distingués. Cette branche cadette, après avoir participé à l'invasion de l'Irlande, reçut des terres en apanage dans le comté de Wexford. Avec ses bâtards et autres ressortissants, tous prenant le nom du seigneur féodal, elle fonda un large clan, de même que les deux Burghs fondèrent le clan de Burke. Nous ne pouvons nous réclamer de la branche principale qu'en vertu d'une communauté de caractère et d'apparence avec les Doyle d'Angleterre, jointes à l'usage ininterrompu des mêmes armoiries et du même cimier. Mes ancêtres, comme la plupart des vieilles familles irlandaises du Sud, persévérèrent, au temps de la Réforme, dans leur foi religieuse et subirent par suite la rigueur des lois. Elles s'appesantirent si fort sur la gentry territoriale que mon arrière-grand-père, chassé de sa demeure, alla s'établir à Dublin, où naquit H.B. Ce souvenir de famille a été curieusement confirmé par Mgr Barry Doyle, que je crois destiné aux plus hautes charges de l'Église romaine et qui descend du frère cadet de mon arrière-grand-père. J'espère que le lecteur me pardonnera cette incursion dans des histoires de famille, peut-être intéressantes pour la famille elle-même, mais sans doute fastidieuses pour un étranger. Je voudrais néanmoins, avant de passer à d'autres sujets, dire un mot de ma famille maternelle, d'autant que ma mère était grande archéologue et qu'avec l'aide d'un de nos parents, Sir Arthur Wickarth, héraldiste en chef de l'Ulster, elle étudia sur une période de plus de 500 ans la filiation de ses ancêtres. En sorte que j'ai sous les yeux, au moment où j'écris, un arbre généalogique de sa composition sur lequel ont perché bien des grands de ce monde. Son père était un jeune docteur de Trinity College, William Foley, qui mourut tôt, laissant les siens dans une pauvreté relative. Il avait épousé une demoiselle Catherine Pack, dont le lit de mort, ou plutôt la pâle figure cireuse couchée sur ce lit, est le plus lointain souvenir de mon enfance. Elle avait pour proches parents, pour oncle, je crois, Sir Denis Pack, qui commandait à Waterloo la brigade écossaise. Les Pack étaient une famille de guerriers, chose naturelle, puisqu'ils descendaient d'un major de l'armée de Cromwell, établi en Irlande. L'un d'eux, Anthony Pack, eut un morceau de la tête emporté à Waterloo, ce qui me fit craindre qu'il ne soit conforme aux traditions de notre famille de perdre la tête dans le feu de l'action. On lui recouvrit le cerveau avec une plaque d'argent et il vécut ainsi de longues années, sujet seulement à des accès de mauvaise humeur qui, chez certains d'entre nous, n'ont pas eu la même excuse. Ce qu'il y a de vraiment romanesque dans l'histoire de la famille, c'est que, vers le milieu du XVIIe siècle, le révérend Richard Pack, principal du collège de Kilkenny, épousa Mary Percy, de la branche irlandaise des Percy de Northumberland, et que, par cette alliance, nous nous rattachons tous, le travail de ma chère mère me permettrait de citer nommément chaque génération au Plantagenet. Ainsi a-t-on toujours dans le sang quelques traces d'une noble origine, dont on ne peut qu'espérer de nobles tendances. Nonobstant le romanesque d'un tel lignage, le jour où Catherine Pack vint, je ne sais pour quelle cause, se fixer à Édimbourg, cette Irlandaise de qualité était fort pauvre. À cette même époque, environ 1850, Charles Doyle était envoyé de Londres par sa famille, qui mettait sous la sauvegarde des prêtres la tendre fleur de sa jeunesse, de sa moralité et de sa foi. Ceux à qui on le recommandait pouvaient-ils rien faire de mieux que de le loger chez une veuve bien née et orthodoxe ? C'est ainsi que les deux familles d'Irlandais expatriés se rencontrèrent sous un même toit. Je garde un petit paquet de lettres écrites en ce temps-là par mon père. Outre qu'elles reconnaissent à tout propos la bienveillance dont il était l'objet, elles sont pleines d'observations intéressantes sur cette société encore rude, buvant sec et d'ailleurs très aimable, au sein de laquelle il se vit jeté à un âge particulièrement délicat pour un jeune homme de son tempérament artistique. Il avait d'excellents instincts religieux, mais le milieu était difficile. Dans la maison se trouvait une toute jeune fille, Mary. Elle avait des yeux vifs et une grande intelligence. On l'envoya faire un séjour en France. Quand elle en revint, elle était une personne des plus cultivées. Le reste se devine. En 1855, Charles Doyle épousa ma mère, Mary Foley. Le jeune couple continua d'habiter chez ma grand-mère. Il ne disposait que de ressources restreintes. Mon père, comme employé du service civil, touchait un traitement qui ne dépassait guère, par an, 240 livres. Il y ajoutait un peu par ses dessins. Cet état de choses se perpétua, pour ainsi dire, toute sa vie, car il manquait d'ambition et n'eut jamais d'avancement sérieux. Il peignait par accès, mais la famille n'en retirait qu'un mince bénéfice. Édimbourg est tout plein des aquarelles qu'il donnait. Si je réalise un jour mon dessein d'organiser une exposition Charles Doyle, les critiques découvriront avec surprise combien il était un grand et original artiste, le plus grand, à mon sens, de toute la famille. Son pinceau ne traitait pas seulement les frais et les thèmes légers de même nature, il s'attaquait également à l'étrange et à l'effroyable. Son œuvre manifeste un style très personnel, très spécial, tempéré par beaucoup d'ironie naturelle. Il était plus terrible que Blake, moins morbide que Wiers. La meilleure preuve de sa singularité, c'est qu'on voit mal à qui le comparer. Cependant, il étonna le prosaïsme écossais plus qu'il ne conquit son admiration, et dans le champ plus vaste de Londres, on ne le connut que par ses illustrations au crayon et à la plume, qui n'étaient point son meilleur mode d'expression. Au bout du compte, avec la totalité de ce qu'il gagnait, ma mère ne disposa jamais d'une somme supérieure à 300 livres par an pour élever sa nombreuse famille. Vivant dans une atmosphère de courageuse et tonifiante pauvreté, nous fîmes, chacun à notre tour, de notre mieux pour aider les plus jeunes d'entre nous. Ma noble sœur Annette, qui devait mourir à l'heure même où notre vie commençait de s'illuminer, partit très tôt comme institutrice pour le Portugal, d'où elle nous envoyait tous ses émoluments. Mes sœurs plus jeunes, Lottie et Connie, firent de même. Moi aussi, je me rendis utile autant que je le pus. Mais c'est encore sur ma pauvre mère que continua de porter le poids de l'humble effort quotidien. Souvent, je lui disais « Quand vous serez vieille, maman, vous aurez un costume de velours, des lunettes d'or et vous resterez douillettement assise au coin du feu. » Grâce à Dieu, il en fut ainsi. Je crois bien que mon père était d'un médiocre secours pour elle, car il vaguait toujours dans les nuages et n'avait aucun sentiment des réalités. C'est le monde qui cueille les fruits du génie et non pas la famille. De mon enfance, j'ai peu à dire. Elle fut d'une austérité spartiate à la maison et plus spartiate encore à l'école d'Édimbourg, où l'un de ses maîtres d'autrefois, toujours prêt à brandir le martinet, me rendit l'existence misérable. Je souffris, de 7 à 9 ans, sous le magistère de ce coquin, borgne et marqué de petites véroles, qu'on eût dit échappé d'un livre de Dickens. Les soirées en famille et la lecture étaient ma seule consolation avec les congés de fin de semaine. Au contact de garnements indisciplinés comme mes camarades, je devins moi-même un garnement indiscipliné. S'il y a un peu de vérité dans l'idée de réincarnation à laquelle mon esprit reste ouvert, j'imagine que, dans une existence antérieure, je dus être un fieffé batailleur et qu'il m'en revenait quelque chose dans le plaisir que, tout enfant, je prenais à me battre. Nous habitâmes durant un certain temps une rue en cul-de-sac qu'animait une vie très particulière. Une rivalité féroce y divisait les petits garçons suivant le côté de la rue auquel ils appartenaient. Finalement, deux champions vidèrent la querelle. Je représentais le parti pauvre qui logeait dans des appartements et mon adversaire le parti riche qui occupait les villas en face. Nous nous battîmes dans le jardin d'une de ces villas. Excellent combat en 5 reprises où nous ne réussîmes ni l'un ni l'autre à nous assurer l'avantage. Quand je rentrai chez moi, « Oh !» s'écria ma mère, « dans quel état effrayant vous avez l'œil, Arthur ?» À quoi je répliquai, « Allez donc voir de l'autre côté de la rue l'œil d'Eddie Tulloch. » Il m'arriva de recevoir une correction méritée un jour où je provoquai le fils d'un cordonnier qui s'était aventuré sur notre terrain en faisant une course. Il portait dans un sac d'étoffe verte une grosse botte dont il m'asséna un coup si violent sur le crâne que j'en faillis perdre connaissance. La leçon était bonne. Je dirai pourtant à ma décharge que malgré mon humeur pugnace, je ne m'attaquai jamais à de plus faibles que moi et parfois même je pris leur défense. Je conservai jusque bien plus tard ces dispositions. Dans mes souvenirs de ce temps-là, deux figures se détachent qui valent que je les rappelle. Quand passait à Édimbourg quelque illustre ami de mon père, il ne manquait point, pour notre embarras momentané, de venir voir en notre petit logis comment allait Charles. C'est ainsi que, dans ma première enfance, il en vint un, grand, couronné de cheveux blancs, affable. J'étais si jeune que cela me fait aujourd'hui l'effet d'un rêve. Mais il me plaît de penser que je me suis assis sur les genoux de Tecret. Il admirait beaucoup ma chère maman, ses yeux gris d'Irlandaise et sa vivacité celtique. Nul, d'ailleurs, n'approchait d'elle sans être captivé. Une fois aussi, j'eus un bref aperçu d'histoire. C'était, si j'ai bien la mémoire des dates, en 1866. des parents irlandais, en bonne situation de fortune, nous avaient invités à passer quelques semaines dans leur grande maison de Kirkcaldy. Passant la majeure partie de mon temps avec les chiens et les chevaux, je devins bientôt l'ami du jeune palefrenier. Les écuries ouvraient sur un chemin de campagne par une porte voûtée surmontée d'un grenier à foin. Un matin que j'étais dans la cour, je vis le palefrenier s'élancer tout effrayé, fermer la porte en grande hâte, pousser les barres, puis monter au grenier en m'appelant du geste. Alors j'aperçus, arrivant sur le chemin, une bande d'individus farouches. Ils pouvaient être au nombre d'une vingtaine. En face de la porte, ils s'arrêtèrent et, levant la tête, nous adressèrent des imprécations auxquelles, d'ailleurs, mon jeune ami répliqua d'abondance. J'appris ensuite que ces hommes étaient des feignants et que je venais d'assister à l'un de ces troubles périodiques qui ont tant éprouvé la malheureuse Irlande. Peut-être vont-ils cesser enfin. Au cours de mes 10 premières années, je me passionnais très vite pour la lecture. C'est au point que la petite bibliothèque à laquelle nous nous adressions prévint ma mère que les livres ne nous seraient pas échangés plus de 2 fois par jour. Mes goûts étaient, naturellement, assez enfantins. J'avais pour auteur de prédilection Mainred et pour ouvrage favori ses Chasseurs de chevelure. Moi-même, à cette époque, j'écrivis et j'illustrais un petit livre. La rencontre d'un homme et d'un tigre y produisait bientôt le pire amalgame. Je fis remarquer à ma mère, avec une sagesse précoce, qu'il est facile de mettre les gens dans des situations embarrassantes, mais plus difficile de les en sortir. Vérité d'expérience pour quiconque écrit des récits d'aventures.